l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Bruno Lamour, bonjour.
Bonjour.
On va parler avec vous aujourd'hui des élections municipales pour essayer de toucher nos candidats aux quatre coins de la France pour une transition écologique et sociale. Alors, vous êtes membre de différentes organisations et là, vous êtes sur le pacte pour la transition. De quoi s'agit-il ?
Alors déjà, c'est un pacte pour une transition écologique, sociale et démocratique. Et comme nous sommes à Paris, nous avons décidé récemment d'y apporter aussi la dimension féministe, c'est-à-dire d'y apporter l'approche féministe des problèmes et d'en faire même un axe transversal. L'un des membres du collectif local a jugé que ce n'était pas suffisamment présent dans le pacte qui était proposé au niveau national et a souhaité que sur Paris, cette dimension soit soulignée.
On va présenter le pacte pour la transition parce que c'est très intéressant. Ce sont des propositions, des mesures qui sont proposées aux candidats des différents partis par tout un regroupement d'acteurs de la transition en France.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une cinquantaine d'organisations qui se sont rencontrés pendant les années 2017-2018, donc c'est un long travail, et qui ont essayé d'évaluer quelles étaient les principales mesures à prendre au niveau local, au niveau des communes et des communautés de communes, pour faire avancer la transition écologique, sociale, démocratique, et donc à Paris féministe. Mais pourquoi ces trois points ? Parce que on est tous d'accord, aussi bien mouvement à tendance, on va dire, plus écologique et mouvement à tendance plus sociale, mouvement à tendance plus écologique comme Greenpeace, comme Alternativa, mouvement à tendance plus sociale comme Emmaüs, par exemple, ou le Secours catholique qui a rejoint l'ensemble des mouvements. On est tous d'accord pour dire que finalement, les difficultés, les problèmes, les grandes questions qui se posent à notre société ont les mêmes origines. Et donc, on ne peut pas séparer les propositions et les solutions qu'on va faire au niveau social et au niveau écologique. Tout doit être pris ensemble. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était absolument nécessaire qu'il y ait une solidarité aussi entre ces différents mouvements. Je donne un exemple qu'on m'a donné récemment. Afin de se débarrasser de migrants qui encombraient l'espace public, une municipalité avait décidé de ressortir un vieux projet écologique de verdissement, voilà, de cet espace. Donc du coup, on faisait de l'écologie au détriment des migrants. Voilà. Donc c'est là où c'est important que les mouvements écologiques et les mouvements qui travaillent avec les migrants travaillent ensemble et soient solidaires. C'est un exemple.
Alors vous disiez, effectivement, il y a plusieurs organisations qui travaillent vraiment sur les questions très sociales, comme Secours catholique, Emmaüs, Terre et Humanisme, la Ligue des droits de l'homme, mais aussi des acteurs autour du commerce équitable, des acteurs autour de l'agriculture et l'alimentation, autour de la question énergétique. Enfin, c'est vraiment très, très large, autour du réemploi aussi. Du coup, comment vous avez réussi à tous vous rejoindre ? Parce que c'est un peu ça, la grosse, grosse difficulté. Il y a beaucoup de mouvements qui se rejoignent sur énormément de constats. Alors, sur quelle base, peut-être, sur quel constat vous vous êtes rejoints ?
Alors, il y a aussi la dimension démocratique. Il y a des mouvements qui, comme Démocratie ouverte, par exemple, qui sont partie prenante du pacte. À l'origine, c'est le Collectif pour une transition citoyenne qui réunit une vingtaine d'associations et de toutes ces tendances-là, et qui s'est dit qu'il fallait donner un outil aux citoyens localement pour les aider à engager un dialogue avec les élus pour favoriser la transition localement. Alors, je dis en deux mots comment ça s'est passé. En fait, ces différentes associations ont fait des propositions. Ensuite, il y a eu une consultation citoyenne qui a réuni plusieurs milliers de citoyens qui ont pu répondre via Internet, qui ont pris position sur ces différentes organisations. Ensuite, on a réuni un comité d'experts constitué d'élus, parce que c'est important qu'on ait les élus avec nous pour montrer que ce sont des propositions qui sont réalistes aussi, qui peuvent être mises en œuvre. Des élus, des représentants des grands mouvements, des experts techniques, en particulier sur les questions énergétiques ou c'est la question d'agriculture, et des citoyens tirés au sort. Et à l'issue d'un certain nombre de tables rondes, sont sorties ces 32 propositions qui ont été reprises ensuite par les associations pour la mise en forme. Donc ça veut dire qu'il y a eu un énorme effort de dialogue, de discussion entre ces mouvements, et je pense que globalement ça s'est passé dans un excellent état d'esprit. Une fois que ce pacte a été construit, le comité de pilotage donc de ce pacte en fait, a jugé que c'était très important que les citoyens soient libres dans la manière de le mettre en œuvre localement. Donc ce qu'a fait le comité de pilotage, si on veut, il a diffusé ça, il a mis en place un système qui permet aux citoyens d'une même commune de se retrouver et de prendre en charge et de voir comment il va aborder les candidats. Alors, bien entendu, le site du pacte fournit des tas d'outils, comment on aborde un candidat, tout un tas d'outils comme ça, pour nous aider, pour aider nous les citoyens localement, à mettre en œuvre ce pacte. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle les collectifs locaux, qui sont autonomes et qui, parce qu'ils sont sur le terrain et qu'ils sont dans la situation locale, savent comment faire avancer le pacte. L'autre particularité du pacte, et que je trouve très intéressante aussi, c'est qu'on sort du simple plaidoyer. On ne va pas aller voir les candidats pour leur dire « il faut prendre telle et telle mesure, vous vous engagez très bien ». Non, ce qu'on leur dit, c'est « vous vous engagez avec nous, nous collectifs, et après l'élection, si vous êtes élu, nous voulons participer, nous voulons vous comprendre comment seront mises en œuvre ces mesures. Et si ces mesures ne sont pas mises en œuvre, on le dénoncera ». Si ces mesures sont mises en œuvre, et qu'on va aussi apprendre les difficultés. On va, nous, citoyens aussi, quelque part, participer à la mise en œuvre de cette manière-là.
Donc, un pacte pour la transition qui est proposé avec donc 32 mesures concrètes qui ont été largement discutées dans un processus démocratique là, que vous venez d'expliquer et qui conduit après à une pratique démocratique le long du mandat donc des prochains conseils municipaux et maires élus. Par contre, on est bien d'accord, c'est apartisan, comment on dit, apolitique. On dit en tout cas pas lié directement à un parti politique, mais c'est quand même politique.
Alors c'est éminemment politique, au sens noble du terme, ce qu'il n'aurait jamais dû perdre, c'est-à-dire on s'occupe des affaires de la cité. Et là en plus, c'est la municipalité, c'est vraiment la cité. Donc c'est éminemment politique. Par contre, c'est apartisan, c'est-à-dire que le pacte ne soutient aucune liste en tant que telle. Et par exemple, à Paris, on est en train de prendre contact avec toutes les listes, absolument toutes les listes. Une autre chose importante, c'est que pour assurer ce caractère apartisan, mais ça va même au-delà, c'est que chaque participant au collectif doit déclarer les mouvements auxquels il appartient. Et dans le pacte, par exemple, dans le collectif à Paris, il y a des gens qui sont engagés politiquement. Mais ils l'ont déclaré. J'appartiens à tel parti politique. La seule restriction, c'est qu'on ne peut pas faire partie du collectif local qui va défendre le pacte et être engagé sur une liste. Et ça, c'est évidemment une déclaration sur l'honneur. Il y a une autre chose que je voulais rajouter qui est très importante pour le pacte, c'est que ce ne sont pas seulement 32 mesures. Ils sont associés aussi à 3 principes. Le premier principe, c'est qu'il y a un aspect sensibilisation et formation à la transition. C'est-à-dire que la municipalité s'engage à ça. Le deuxième principe, c'est la co-construction des politiques locales. C'est-à-dire que la municipalité s'engage à ne pas mettre en œuvre ces mesures indépendamment des citoyens. Et le troisième principe, c'est l'intégration des impacts à long terme et de l'urgence climatique et sociale. Je voudrais donner un exemple de l'importance de ces principes. Dans une municipalité que je ne nommerai pas, une municipalité a décidé de mettre en œuvre la collecte des biodéchets, ce qui, en soi, est une excellente mesure et peut faire partie, je ne sais plus, ça peut faire partie du pacte. Le problème, c'est que cette municipalité n'a pas informé les citoyens sur l'objet, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Il n'y a eu aucune formation. Pire, les citoyens qui localement étaient engagés dans la collecte de biodéchets au travers de compost n'ont pas été ni consultés ni informés. Donc typiquement, cette mesure-là, pour nous, ne répond pas au pacte.
Alors, on va parler un petit peu de ces 32 mesures hein, pour donner envie à nos auditeurs peut-être d'être des porteurs de cette transition auprès de leurs candidats sur leur commune. Mais si on revient un petit peu sur ces trois grands principes, donc sensibilisation, formation à la transition qui doit être poursuivie tout le long du mandat par les élus qui s'engagent sur le pacte, co-construction des politiques locales, donc là, on entend bien cette démocratie participative que vous entendez promouvoir, et intégration des impacts à long terme et de l'urgence climatique. Alors là, c'est très intéressant parce que justement, il y a une mesure que moi, j'ai trouvée très originale qui est de créer carrément, finalement, une instance au sein de la commune, une commission extra-municipale qui prend en compte le temps long. Alors, on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Là, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui parle à beaucoup de citoyens. Parce qu'on n'en est plus à il y a 10 ans. Maintenant, on sait qu'il y a urgence climatique et qu'il faut prendre en considération le temps long dans les politiques publiques. Alors, en quoi ça consiste ?
Alors, j'insiste pour vous dire quand même que c'est un principe qui traverse l'ensemble des propositions, le temps long. Et ça fait l'objet d'une proposition. Mais toutes les propositions doivent intégrer la question du temps long. Alors, cette commission extra-municipale... On n'a pas dit, mais sur chaque mesure, il y a 3 niveaux possibles d'engagement suivant ce que la municipalité précédente a fait. C'est que si une municipalité, par exemple, a déjà une commission de ce type-là, elle peut le choisir pour progresser encore là-dedans. Là, ce sera à chaque commune de voir comment il va mettre en œuvre cette commission. Là, je ne peux pas donner de détails, c'est vraiment localement. Et je pense que la commission du temps long à Paris ne sera pas la même que celle de la commission du temps long dans une région qui souffre de sécheresse ou dans une région qui a des problèmes de graves de pollution de l'eau, etc. Je pense que chaque commune la mettra en œuvre en fonction de ses réalités locales.
Alors moi, ce que je vois tout de suite, c'est le temps long dans une politique publique, par exemple, se dire, tiens, on va planter des arbres qui vont produire des fruits plutôt que des arbres qui produisent des feuilles qu'on va souffler, voilà, avec le coût énergétique et la nuisance sonore pour les habitants. On va faire des aménagements, par exemple, d'espaces verts utiles. Mais sur Paris, par exemple, vous avez quand même un peu une idée de ce temps long ? Ça pourrait être sur la question de l'habitat, du transport ?
Alors, ce sera mon idée, parce qu'on n'en a pas encore parlé au sein du collectif parisien. Mais moi, je le vois sur tous les aspects. Je le vois au niveau social aussi. Le temps long, c'est comment on accueille les SDF, par exemple, sur Paris. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit bien qu'on est dans des politiques à très court terme. Il y a le 115, il y a le SAMU social qui est débordé. Il y a toute la question du logement derrière et actuellement, on loge pas beaucoup de gens, par exemple, en hôtel, des choses comme ça, ce qui coûte extrêmement cher. On voit bien qu'on est dans une politique de très court terme. Donc, c'est pas seulement les questions écologiques, on pense souvent aux questions écologiques, mais les questions sociales aussi sont concernées par le temps long. Alors, bien entendu, par exemple, sur Paris... Il faut vraiment aborder les questions de la végétalisation de Paris. On sait très bien que Paris et la région parisienne est beaucoup trop bétonnée, que du coup, ça pose un problème au niveau du ruissellement et du fait que si on a une crue centennale, comme on en a eu en 1900, au début du 20e siècle, qui avait été due au fait que le terrain avait gelé à un tel point que le terre ne pouvait plus absorber l'eau, on n'a plus besoin qu'il gèle. Puisque maintenant, on a tellement bétonné la région parisienne que la terre n'absorbe plus l'eau. Et si on a des pluviosités importantes, alors on aura une crue, c'est-à-dire artificielle, alors qu'elle était naturelle au XXe siècle. C'est ce type de question. Je pense que la question du temps long traverse tout. J'insiste sur le temps long parce que quand a été fait cette proposition, il y a eu un débat entre nous en disant « Est-ce que le temps long a encore un sens ?» Ça, c'est beaucoup de jeunes posaient ça. On n'est plus dans le temps long. C'est justement parce qu'on a négligé le temps long qu'on est dans la situation actuelle. Donc, même s'il y a urgence et même si on sait que les choses se jouent dans les 10 années qui viennent, on est obligé d'intégrer le temps long pour sortir justement du travers dans lequel on est depuis des dizaines d'années.
Rentre un petit peu sur les détails de ces 32 mesures du pacte pour la transition qu'on peut proposer à nos candidats aux élections municipales en rejoignant votre mouvement. Il y a des mesures sur l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, sur l'agriculture, sur les modes de consommation, le transport, l'habitat, les finances et sur les achats publics responsables, la publicité. Mais vous, tout particulièrement, Bruno Lamour, vous êtes en lien avec votre ancien emploi dans un établissement public où vous étiez en charge de l'informatique, très intéressé sur les questions du numérique, les logiciels libres et rendre plus accessible le numérique, notamment dans la dématérialisation de tous ces services publics ou autres via l'informatique.
Sur la question du logiciel libre, tout le monde a entendu parler des GAFAM, maintenant tout le monde a entendu parler. On sait à quel point finalement l'ensemble de ces systèmes ont pour objectif essentiel de collecter de la donnée. Le logiciel libre, c'est une manière de commencer à desserrer l'étau de ces multinationales qui sont, pour moi, font partie des plus graves dangers actuels sur le plan écologique et sur le plan social. Malheureusement, l'État, en tout cas, continue à passer des contrats mirifiques avec Microsoft. Alors, j'ai vu que maintenant, l'État demande aux établissements publics de ne plus utiliser Google comme moteur de recherche. C'est un petit progrès. Nous, au sein de notre établissement public, on nous a recommandé de ne plus utiliser Doodle, mais d'utiliser Framadet, qui fait partie, je vais faire de la pub, qui fait partie de la suite Framasoft, qui est une association dont l'objectif est de sortir des GAFAM. Voilà. Et si vous voulez donner de l'argent à Framasoft, ils en ont besoin. Ce sont des gens qui développent des services libres. Vous tapez Framasoft, et là, vous avez tout un tas de services gratuits qui permettent de sortir de cet étau. Donc ça, c'est l'une des mesures. L'autre qui m'est particulièrement chère, c'est la question de proposer gratuitement des lieux d'accompagnement numérique avec une assistance humaine à destination de toutes et tous. Alors pourquoi c'est important ? Parce que l'administration, on a décidé en France de passer à l'administration électronique. On supprime les interfaces humaines pour passer à des interfaces numériques avec un objectif bien compris qui est de diminuer le nombre de fonctionnaires et de contractuels. Voilà. Au détriment, en fait, de la qualité du service public. Je trouve ça très angoissant de faire toutes les démarches de demande de retraite avec tout l'impact que ça a, uniquement par une interface électronique, avec la possibilité d'avoir quelqu'un au téléphone qui n'est jamais la même personne. C'est assez inhumain. Je donne un autre exemple. Si vous demandez un permis de conduire, avant, vous alliez à Paris, vous alliez à l'antenne de police et vous rencontrez quelqu'un qui vous explique, etc. Maintenant, tout est électronique. Alors, en apparence, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, pour aller chercher votre permis de conduire, il n'y a plus que le commissariat du 18e, je crois. Et il y a une queue invraisemblable. Et vous perdez une matinée. C'est centralisé en un point. Moralité, on a perdu toute la relation qui existait dans cette démarche. Et encore, moi, je suis en capacité, compte tenu de mes informations, de le faire. Mais des tas de gens aujourd'hui ne sont pas en capacité. Des personnes âgées, mais pas seulement des personnes âgées. Il y a des gens qui ont énormément de mal à utiliser l'outil informatique. Et donc, on crée un nouvel illettrisme. Et alors, la réponse, c'est on va apprendre aux gens à programmer. Ce qu'il faut, c'est apprendre à utiliser l'outil, mais pas nous transformer en quelque part, moi, je vais jusqu'à ce point-là, en c'est plus nous qui sommes les maîtres, c'est l'outil informatique qui devient le maître. Et nous, on est au service de cet outil informatique. Ça, c'est toute la pensée de Jacques Ellul que je recommande aux auditeurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le mouvement dans lequel on est. Voilà. Et que, par exemple, France Connect, qui permet de se connecter aux différents services, la caisse d'assurance vieillesse, la caisse d'assurance maladie, les impôts, etc., et qui propose un identifiant unique et un mot de passe, Eh bien, France Connect va se lancer dans la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que ce ne sera plus un identifiant et un mot de passe. On va vous demander de faire un petit film de face, de profil, vous souriez, etc. On vous crée votre identité virtuelle. Et puis, on vous dit qu'on va vous rendre service parce qu'à chaque fois que vous irez devant votre ordinateur, vous allumez votre webcam, on vous reconnaît et tout de suite, vous accédez. Sans se rendre compte qu'à partir du moment où on rentre là-dedans, ça veut dire qu'on rentre aussi dans l'utilisation de cette identité pour des raisons toujours très très bonnes de sécurité, de lutte contre le terrorisme, etc. etc. Les aéroports sont intéressés par ça, la RATP aussi. On n'est plus dans une informatique conviviale, on est dans l'utilisation du numérique à des fins sécuritaires. Et je dis que s'il nous arrive quelque chose comme dans le passé où on cherche certaines populations pour les déporter ou autre, ce sera impossible pour ces populations d'échapper au système. Ce sera impossible. Donc, où sont nos libertés là-dedans ? Informatique conviviale, oui, on peut utiliser l'outil informatique à des fins positives. Il faudrait pouvoir y mettre des limites et je ne vois pas actuellement qui peut y mettre des limites, sinon le citoyen et commencer par les municipales, par les communes, faire prendre conscience aux élus localement des dangers potentiels de ces outils. Peut-être que ce n'est pas là que ça passe. Moi, je dis toujours qu'il faut éduquer au numérique et pas éduquer par le numérique. Je pense que, bon, tout le monde sait que les grands de la Silicon Valley qui ont créé les GAFAM mettent leurs enfants dans des écoles où, justement, il n'y a pas de numérique. Enfin, tout le monde le sait maintenant. Il y a quand même des actes de résistance qui sont intéressants. Il y a un bouquin que je recommande de Philippe Biwix qui est vraiment très intéressant et qui montre, justement, qui est une approche assez systémique, aussi bien sur le plan social, sur le plan écologique aussi, et puis sur le plan éducatif de la dérive complète dans laquelle on est par rapport à ces outils-là et de la grande difficulté de encore une fois, de s'en sortir.
Alors, pour finir, Bruno Lamour, sur ce pacte pour la transition qui peut être signé par tout candidat aux élections municipales pour les prochaines élections. Comment faire alors, si on est intéressé, si on se dit « Ah oui, moi, j'ai envie de porter des mesures de transition sur ma commune, de sensibiliser les candidats et, si possible, d'agir quand les candidats seront élus en tant que citoyens pour les aider à mettre en place toutes ces mesures sur lesquelles ils se seront engagés via le pacte. Comment faire ? On vous rejoint, donc il y a une mise en réseau, c'est ça aussi l'intérêt. Via la plateforme Internet, on peut être mis en réseau pour constituer des groupes locaux, c'est bien ça ?
Ce n'est pas des groupes locaux, c'est-à-dire on ne crée pas une nouvelle association. On réunit des citoyens engagés d'ailleurs dans d'autres mouvements ou non, localement. Je voudrais insister, avant de répondre à votre question, sur un autre point très important pour moi du pacte, et particulièrement sur Paris. C'est qu'on a des tas de mouvements en fait, qui sont déjà engagés. Par exemple, Alternatiba est engagée sur un plaidoyer sur le transport. La coordination Hauts-Île-de-France est engagée. Les AMAP aussi ont un plaidoyer. Terre de Liens a un plaidoyer. France Nature Environnement a un plaidoyer très intéressant sur l'urbanisation. Les habitats participatifs aussi. Voilà. Donc on a tous ces mouvements-là qui sont sur leur créneau et qui défendent leurs propositions et qui sont en fait à l'origine du pacte. Donc, si on est intéressé par une de ces questions-là, moi je dis, si vous êtes intéressé par la question de la pollution de l'air et la question des transports, bah, vous pouvez rejoindre Alternatiba, c'est une très très bonne chose. Par contre, si ça vous intéresse de travailler à faire en sorte que tous ces plaidoyers se retrouvent, qu'ils ne s'ignorent pas, qu'ils se retrouvent ensemble, que quand on va aller voir un candidat, Alternatiba puisse dire « Voilà, on vous défend les transports, mais attention, nous, les questions défendues par Emmaüs là, sur les SDF, la manière dont on traite les SDF, ça nous intéresse aussi. Donc, vous allez bientôt les recevoir. Donc, attention, si vous nous dites oui et vous dites non, ça va nous poser un problème. » Voilà, c'est ça l'objectif du pacte, c'est de montrer que les citoyens travaillent ensemble dans une même direction, chacun dans son domaine d'appétence, d'expertise, d'intérêt, etc. Voilà. Donc, il y a de multiples manières de s'engager. Donc, soit dans une association qui porte déjà un plaidoyer, soit, et soit, ça peut être et ou, hein, et à ce moment-là, allez sur le site du collectif, du pacte pour la transition, vous faites taper pacte pour la transition, vous allez trouver, je crois, s'engager, vous mettez votre code postal, et à ce moment-là, votre mail, et à ce moment-là, vous êtes intégré dans une liste mail commune qui va vous permettre de communiquer avec les autres citoyens de la même commune. Et puis, ça va vous permettre de vous rencontrer, de faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer quelles sont pour nous les priorités pour la commune, de rencontrer nos partenaires, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis d'aller voir les candidats. Là, on est en train de le faire sur Paris. On a un certain nombre de rendez-vous avec certaines listes. D'aller voir sur Paris, leur expliquer le principe du pacte, et puis quelles sont pour nous nos priorités. Eux, ils vont nous dire quelles sont leurs priorités. On va discuter. Et en finale, on fera une belle cérémonie avec des photos et voilà. Et on va signer le pacte. S'ils sont élus, eh bien, ils s'engagent à les mettre en œuvre. Puis il y a une autre vertu aussi, c'est que même s'ils ne gagnent pas, eh bien, s'ils se sont engagés, par exemple, pour assurer l'accueil, l'accompagnement des personnes, la réinsertion des personnes en difficulté, et que la liste qui a gagné propose quelque chose dans ce sens-là et qu'ils votent contre, on ira aussi les voir en disant « on ne comprend pas, vous êtes engagés, la municipalité actuelle propose et vous votez contre ». Ça peut avoir comme vertu aussi de favoriser la mise en œuvre de vraies mesures au-delà des petits calculs politiques. Voilà. Et c'est possible, puisque au niveau national, ça a été fait, par exemple, pour territoire zéro chômeur longue durée, ça a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que c'est possible. Ensuite, je pense que ça va être très difficile et qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais bon, voilà, il faut qu'on s'y mette, on n'a pas le choix de toute manière.
Très bien, donc un suivi citoyen et donc une belle opportunité de promouvoir la transition sur les différentes communes.
Et aussi de se rencontrer entre citoyens localement qui veulent faire quelque chose et qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, mais qui se rendent bien compte qu'il faut maintenant travailler ensemble. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est impossible de faire autrement.
Merci.
Merci beaucoup de cet entretien. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça m'a aidé moi-même à avancer.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.